Donc on a fait cette introduction, ce que j'expliquais il y a 2 semaines en fait, sur le cours, avec des choses assez générales sur la Bible. Et cette semaine, on va commencer avec une petite partie sur le canon biblique, comment on est venu à avoir la Bible telle qu'on l'a sous forme imprimée, pourquoi il y a les livres qui sont dedans, qui a choisi et un petit peu comment c'est arrivé là. On en a parlé la semaine dernière avec Elodie. Mais il y avait quelques points que je voulais présenter avant de rentrer dedans et avant notamment de regarder aussi le début de la Genèse. C'est un petit peu des points par rapport à l'idée de la Bible, des points de supposition, un peu ce que la Bible prend comme élément de point de départ, qu'elle suppose comme étant vrai. Il y a, quand on lit le début de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et il y a cette idée que Dieu est là, et qu'il existe. Et c'est un fait que la Bible prend comme acquis, et la Bible ne prend pas beaucoup de temps pour essayer de démontrer, de rentrer dans des arguments philosophiques ou logiques pour dire on va démontrer l'existence de Dieu. Le seul point qu'elle présente comme étant éventuellement quelque chose qui doit prouver l'existence de Dieu, c'est le fait que la création telle qu'elle est, dans sa complexité, dans son ordonnancement, dans la réalité du monde et de l'univers tel que nous le voyons, c'est que ça doit nous amener à nous dire « Waouh, il y a quelqu'un qui a fait ça ». Et il y a deux passages, il y a des passages qu'on peut regarder, il y a dans les psaumes. Je vais vous le lire éventuellement dans psaume 19. Vous n'avez pas besoin de vous y tourner, vous pouvez le noter si vous voulez. Psaume 19, versets 1 à 4, qui dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. » Il y a d'autres passages dans les psaumes, il y a d'autres choses dans l'Ancien Testament qui ressemblent à ça en disant la création parle de Dieu et d'une certaine manière montre l'existence de Dieu. Et il y a aussi dans Romains 1, verset 20, donc dans le Nouveau Testament, un passage qui dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Voilà, donc nous on part un petit peu dans notre étude en acceptant cela. Je ne vais pas passer énormément de temps sur ces points-là, on peut en discuter éventuellement pendant les questions. Mais l'idée c'est de dire Dieu existe et on va regarder avec le début de la Genèse comment il a créé le monde et les choses qu'il a faites. C'est des choses de nos jours qui, pour beaucoup de nos contemporains, sont difficiles à accepter, et donc c'est pour ça que je le mentionne. Mais c'est simplement, nous on va le considérer comme acquis aujourd'hui. Un autre point qui est important quand on aborde la Bible, c'est l'idée que Dieu a inspiré la parole de Dieu. C'est lui qui a, en quelque sorte, dicté ou guidé les hommes qui ont écrit, et c'est lui qui a communiqué ce qu'il voulait, et que ces choses qui sont dans la Bible sont des choses que Dieu veut nous communiquer, et qu'il veut nous communiquer des choses de manière claire, de manière compréhensible, et de manière parfaite ou complète. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut, que Dieu a fait en sorte que ce qui nous est parvenu est ce dont nous avons besoin, et que c'est des choses qu'on peut comprendre et saisir sans devoir entrer dans des études compliquées, des choses mystiques où c'est seulement les initiés qui ont la compréhension, mais c'est quelque chose de simple et qu'on peut comprendre. Et on va parler aussi dans cette idée de compréhension claire que la Bible est à prendre littéralement. C'est pas quelque chose où il y a des sens cachés, des choses avec des sens figurés compliqués où on n'arrive pas, et que dans ce contexte c'est aussi par rapport au style littéraire de la Bible. Les textes, il y a du récit historique où on nous dit, bon, ben, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Il y a des récits poétiques où c'est des choses un petit peu sur plus imagées, sur ce qu'on ressent, sur ce que les hommes qui ont écrit ont vécu et les sentiments qui les traversaient à l'époque où ils ont écrit. Et donc, on peut lire ça et comprendre en fonction des styles aussi, mais littéralement. Et puis, on va regarder aujourd'hui et maintenant l'idée que quand on lit la Bible, on peut se dire que ce qu'on a à la main, ce sont des choses qui sont dignes de confiance. Bonjour.
Bonsoir.
Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Et donc, on va regarder le canon des Écritures et je vais vous expliquer comment on a sélectionné les livres, comment on a considéré si les livres étaient dignes d'être inclus et si c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, se dire que c'est des livres qui n'ont pas été modifiés par des gens qui avaient d'autres motivations, que c'est des choses qui sont arrivées, qui ont été correctement transmises jusqu'à nous, parce que c'est des choses qui ont été écrites jusqu'à... Il y a peut-être 1000 à 1500 ans de nous, donc c'est des choses, on se dit, en 1500 ans, il peut y avoir des changements, peut-être qu'on n'a pas compris quelque chose, et donc le fait qu'il y ait le canon, ces écrits, nous permet d'avoir confiance dans ces choses qui sont écrites et de nous appuyer dessus. Et puis, le dernier point qu'on va regarder tout à l'heure avec le début de la Genèse, c'est l'idée que la Genèse est un livre super important et qui mérite une étude un petit peu plus approfondie. C'est pour ça que quand on regarde le plan de l'étude, on voit qu'on va passer un petit peu plus de temps sur la Genèse. On va le diviser en 3 séances. Parce que la Genèse présente plein de choses qui permettent ensuite de comprendre le reste de la Bible. Par rapport à la création, il y a plein de doctrines fondamentales sur le péché, le salut, qui est Dieu, son plan pour la rédemption. Il y a plein de choses qui sont présentées au niveau de la Genèse. Et sans la Genèse, on a du mal à comprendre beaucoup de ce qu'il y a dans le reste des Écritures. Voilà. Donc le canon des Écritures, on en a parlé la semaine dernière brièvement, mais c'est cette idée. Canon, c'est pas l'arme, c'est l'idée d'un standard ou d'un modèle. Donc c'est le canon des Écritures, c'est un petit peu la réponse à quelques questions. Qui pourrait être comment la Bible est arrivée jusqu'à nous, quel livre est-ce qu'on devrait inclure dans la Bible. Pour certains d'entre vous, il y a des petites différences, par exemple, entre la Bible protestante et la Bible catholique. Il y a aussi d'autres variations encore avec l'Église orthodoxe, par exemple. Donc ces questions, ces choses, ce que je vous disais, est-ce qu'on peut être confiant sur ce qui nous est parvenu aussi. Le canon, c'est la réponse à ces questions, et c'est dans l'histoire de l'Église, les gens ont dit bon ben on va se réunir et on va dire quels sont les livres qui disent ce qu'on a besoin de savoir, qui nous disent la vérité que Dieu veut nous communiquer, et qu'est-ce qu'on va inclure comme ça. On a quelque chose qui est fini, on peut dire voilà, on a la Bible, et on n'a pas besoin de se dire tiens, aller sur Amazon et se dire il y a 50 000 livres, est-ce que celui-là, est-ce qu'il est bon, qui c'est qui l'a écrit, quelles étaient ses motivations ultérieures, c'est plein de choses, les auteurs, c'est toujours une question, on ne sait pas trop qui écrit quoi. Et donc, les pères de l'Église, les gens qui ont au premier siècle, dans les premiers siècles après Jésus, se sont réunis dans des conciles pour se mettre d'accord par rapport à certains points de théologie et de doctrine au niveau de l'Église. Et ils se sont aussi réunis un moment pour dire quels sont les livres qu'on va mettre dans la Bible. Et c'était pour aider les gens à savoir bon bah je peux lire ça et c'est bon. Et ça donne aussi, ça facilite aussi un petit peu la transmission, c'est-à-dire qu'on dit bon bah c'est ça mérite que je prenne le temps de le sauvegarder, de le garder, de le traduire correctement aux gens. Par exemple, on va regarder dans l'histoire, c'était d'abord écrit en hébreu, en araméen, en grec, les textes originaux. Et il y a des gens, à un moment donné, qui ont traduit. Et s'il y avait plein de textes, ça prend peut-être trop de temps de tout traduire. Mais là, avec un canon, ils peuvent dire, c'est ces livres qui sont importants, on va s'occuper de bien traduire ces livres-là. Et les autres, éventuellement, si on a le temps, on va s'en occuper. Le processus de communication, quand on regarde la Bible, comment Dieu a communiqué avec les gens, c'est il y a des hommes qui ont eu une rencontre ou quelque chose avec Dieu dans l'histoire. On verra dans la Bible au cours du cours qu'il y a des hommes qui ont eu des rencontres privilégiées avec Dieu et que Dieu leur a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais cette personne ou quelqu'un de proche de cette personne a ensuite écrit ce que Dieu avait communiqué. Et ces livres ont ensuite été transmis, recopiés, et avec la culture et l'histoire ont été acceptés comme étant importantes. On va regarder qu'il y a des différences entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament tout à l'heure. Mais ça, c'est la première étape. Donc une fois que ces choses sont écrites et ont circulé, il y a un contrôle qui vient plus tard. Et c'est, par exemple, ces conciles où ils posent des questions, ils disent est-ce que c'est un message cohérent qui vient de Dieu tel qu'on le sait par rapport au reste? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça a été écrit par un homme qui a vécu une vie spéciale par rapport à Dieu? C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui était un homme de Dieu. Est-ce qu'on est sûr que le texte en question a été écrit par cette personne-là? Est-ce que le livre a une importance ou un effet sur la vie des gens qui la lisent? Est-ce que ça a un effet? Et est-ce que le livre est adopté par la communauté chrétienne? Pour l'Ancien Testament, il y avait la communauté juive avant l'ère de l'Église. Et le troisième point dans la transmission jusqu'à nous de ce message que Dieu donne, c'est la copie. À l'époque, ils copiaient à la main sur des rouleaux, des parchemins. Même au début, certaines des choses, par exemple dans la Genèse, on parle éventuellement de tablettes qui auraient été transmises à Moïse, qui auraient ensuite écrit sur des parchemins. Et ensuite, il fallait qu'ils les copient parce que ces parchemins, ils durent pas des milliers d'années. Ça a une durée de vie d'une... Ça dépend un petit peu des matières et des conditions, mais 50, 100 ans, et un livre, il faut s'en occuper. Et donc, il fallait le copier. Et, ce que je vous disais tout à l'heure, il fallait aussi le traduire. Donc, il y a des gens ensuite qui ont pris les textes originaux, des copies des textes originaux, et qui les ont traduits dans une langue pour que nous, on puisse les comprendre. Et donc, c'est au bout de ce fil-là que nous, on arrive et qu'on arrive à lire la Bible qu'on a entre les mains. Donc ce processus est long, ce processus semble compliqué. Avec notre cours, on essaie de se tenir à une heure de cours, on va pas pouvoir rentrer dans le détail de chacun de ces points-là, parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on pourrait discuter. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus de références, je peux vous donner d'autres choses à lire, ou d'autres des liens en ligne avec des détails si vous voulez approfondir certains points. On va regarder quelques dates importantes par rapport à cette transmission. On a parlé un petit peu des différents livres de la Bible la semaine dernière. Au niveau des dates, on pense que le livre le plus ancien qui est écrit, qui est dans la Bible, ce serait le livre de Job, qui aurait été écrit 2000 ans avant Jésus-Christ, environ. Job. J-O-B. Qui est dans l'Ancien Testament. Donc celui-là serait le plus ancien. Ensuite, on pense que Moïse aurait écrit les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle la loi ou le Pentateuque. Et ça aurait été écrit vers 1400 ou 1500 avant Jésus-Christ. Le dernier livre à être écrit dans l'Ancien Testament, ce serait le livre de Malachie, Donc ça, ce serait le dernier de l'Ancien Testament. Donc c'est 400 ans avant Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, aurait été écrit de 2000 à 400 avant Jésus-Christ. Ensuite, on a une date importante qui est en 250 avant Jésus-Christ. On a ce qu'on appelle la Septante, qui était une traduction grecque des livres de l'Ancien Testament et de quelques autres livres. Et on en parlait la semaine dernière, ça aurait été demandé par l'empereur Ptolémée à Alexandrie. Il aurait demandé à 70 érudits juifs de lui faire une traduction en grec des livres religieux importants juifs. Et donc cette Septante a longtemps été utilisée comme base ensuite des traductions pour la Bible, et notamment c'est la Septante qui explique les différences entre la Bible des protestants et la Bible catholique. Les catholiques se basent sur la Septante comme point de départ, alors que les protestants se basent sur les textes hébreux et pas tous les textes qui sont inclus dans la Septante. En 100 ou 90 avant Jésus-Christ, il y a un groupe de rabbins juifs qui ont fait une liste de livres qu'ils ont considérés comme étant le canon juif et qui ont décidé de dire on va retourner au texte hébreu original, on ne va pas se baser sur la Septante et le texte grec, on veut rester sur l'hébreu. Et une autre date importante éventuellement, c'est en 386 après Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la Vulgate par Saint Jérôme. C'est une traduction de la Bible telle que nous avons plus les textes qu'on appelle apocryphes qui sont dans la Bible catholique. Donc c'est quelques dates importantes. Et après les différences, par exemple, ont été entérinées entre les catholiques et les protestants vers l'an 1660, beaucoup plus tard, 1560, pardon. Voilà, c'est un petit peu pour donner quelques points d'histoire. Pour voir une bonne, je dirais peut-être, division de la Bible, il y a un verset dans Éphésiens, dans Éphésiens 2, 20. Donc, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ce texte et qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. » Et on parle de l'Ancien Testament comme étant la loi et les prophètes, et comme le Nouveau Testament étant les apôtres. Et donc Paul, il dit « Votre foi est basée sur l'enseignement des prophètes, ou de la loi et des prophètes, l'Ancien Testament, sur les apôtres, sur ce qui est dans le Nouveau Testament, et la pierre angulaire étant Jésus. » Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent tous les deux de Jésus, et on verra, il y a beaucoup de références dans l'Ancien Testament, notamment de promesses et aussi de types ou de représentations de Jésus. Et c'est une bonne manière de diviser et de penser à la Bible. La loi et les prophètes, les apôtres, la pierre angulaire étant Jésus. Donc on va parler de l'Ancien Testament brièvement. Les livres dans l'Ancien Testament, c'est souvent, ils tirent leur autorité de ce qu'on appelle l'autorité prophétique. C'est des textes qui ont été écrits par un prophète, quelqu'un qui parle au nom de Dieu et qui en annonçant des choses, éventuellement prophétisé, et il y a des choses qui se sont réalisées. Il fallait qu'il y ait une sorte d'accomplissement, et les Juifs étaient appelés à mesurer s'il y avait des choses vraies dans ce qu'ils disaient. Et l'Ancien Testament, on voit, il y a à peu près presque 4000 références où, où l'Ancien Testament dit « Ainsi parle l'Éternel » ou « Oracle de l'Éternel ». L'Ancien Testament dit parler de la part de Dieu ou de Jésus. C'est vraiment l'idée que c'est Dieu qui parle à travers quelqu'un. On voit aussi dans le Nouveau Testament que les apôtres et Jésus dans les évangiles citent sans arrêt l'Ancien Testament. Et Jésus et les apôtres tiennent l'Ancien Testament comme étant quelque chose de vrai et sur lesquels ils se basent pour leur enseignement dans le Nouveau Testament. Une petite parenthèse donc pour parler de ce qu'on appelle les livres apocryphes et de la différence entre la Bible protestante et la Bible catholique. Les livres apocryphes qui sont inclus dans la Bible catholique sont des livres qui concernent l'Ancien Testament. Et ce sont des textes qui viennent de la Septante, cette traduction faite en 250 avant Jésus-Christ. Et ce sont des livres qui auraient été inclus un petit peu sans vraiment l'autorisation ou l'aval des autorités religieuses juives de l'époque, mais un petit peu en parenthèse. Ces livres ont longtemps été considérés comme étant un petit peu pas dignes de confiance pour différentes raisons. Et on voit que, par exemple, Jérôme, qui a produit la Vulgate vers l'an 400, a inclus ces livres, mais en mettant un avertissement en disant « Attention, ces livres ne sont pas vraiment dignes de confiance, il faut les prendre un petit peu au second degré, pas vraiment les prendre pour aussi important que le reste des livres. Ces livres ont finalement été entérinés dans la Bible catholique après la Réforme, et c'était une manière pour les catholiques un petit peu de se différencier, de se démarquer presque des protestants. Donc la motivation n'était pas forcément très, très bonne, en tout cas c'est mon avis. Mais c'est juste pour expliquer pourquoi il y a ces livres apocryphes. Le Nouveau Testament, lui, se base sur ce qu'on appelle l'autorité apostolique, les apôtres. Et donc les textes qui sont dans le Nouveau Testament sont tous soit écrits par un apôtre directement, soit écrits par quelqu'un qui était très proche d'un apôtre, et cette personne a reçu un petit peu l'aval de l'apôtre, d'un apôtre qui disait « c'est bon ce qu'il a écrit, j'ai regardé et ça valide ». La Bible, telle que nous l'avons, en fait, elle a été un petit peu finalisée à un concile qui s'appelait le concile de Carthage, vers la fin du IVe siècle, où les pères de l'Église de l'époque se sont réunis, ont dit, voilà, ces livres-là sont ce qu'on considère comme la parole de Dieu, et on arrête un petit peu la Bible à ces livres-là. Et donc, c'est les 66 livres que nous avons ici. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament.
C'était le 4e siècle.
Oui, le 4e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Et ensuite, je vous avais parlé des traductions. Et donc, il y a des traductions qui ont été faites, qui se basent sur différents écrits. On a pas mal de choses... ce qu'on appelle les documents occidentaux, des documents qu'on appelle d'Alexandrie. Il y a la Vulgate de Jérôme, il y a un autre texte qu'on appelle le Textus Receptus. Et ces différents manuscrits très anciens dont nous avons des copies sont les éléments de base en général pour les traductions que nous avons entre nos mains. Les gens en général qui traduisent la Bible sont des gens qui passent très longtemps, c'est pas mal de choses à traduire, et ils font le plus souvent l'effort de regarder les textes originaux, les textes les plus anciens, et d'essayer de faire une traduction qui est proche. On peut considérer aussi l'idée que les textes où la langue évolue, une traduction en français d'il y a 500 ans ou d'il y a 300 ans semblerait peut-être un peu vieilli pour nous. Donc il y a des gens qui se disent il faut qu'on refasse une traduction pour un petit peu l'améliorer. Et donc dans toutes ces traductions, il y a toujours une part de subjectivité. Les gens en général qui traduisent font l'effort et de dire on va avec humilité essayer de traduire le plus proche possible du texte original, mais il y a toujours des choses qui peuvent être difficiles à exprimer. Un exemple simple, c'est en grec, il y a quatre mots pour parler de ce qu'on peut parler en français quand on dit amour. Il parle d'un amour inconditionnel, d'un amour fraternel, d'un amour physique ou d'un amour sentimental. Et en français, on a le mot amour. Et en grec, ils ont quatre mots différents. Donc, par exemple, c'est difficile de donner les mêmes nuances en français que ce que pouvaient avoir les textes originaux en grec. Donc, ces choses sont à prendre en compte quand on lit. Et si jamais vous êtes curieux, il y a des sites, par exemple, où vous pouvez regarder plusieurs traductions en français en parallèle. Et ça vous permet de voir un petit peu comment les gens, les petites différences, ça permet de s'en rendre compte un petit peu des différences. Et c'est intéressant. Toutes ces choses, si jamais vous êtes intéressé et vous voulez un peu plus de détails sans entrer dans des sujets de thèse, etc., parce que il y a des gens qui se penchent sur le grec ancien, l'hébreu, etc. Mais il y a un petit livret qui s'appelle L'histoire merveilleuse de la Bible, qui est disponible en ligne ou à la librairie biblique. Qui, je crois que c'est de l'ordre de 3-4 euros, et c'est un petit pamphlet ou petit livre, une quarantaine de pages, et dans lequel on voit, ils expliquent un petit peu plus en détail ces choses dont on a parlé sur le premier cours, sur l'introduction, et aujourd'hui, le canon biblique. Donc ça, c'est pas mal.
C'est qui l'auteur ?
Je ne sais plus l'auteur. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un auteur unique. Je crois que c'est quelque chose qui est publié par une des maisons d'édition biblique, peut-être Genève ou quelque chose dans ce genre-là.
Quand je travaille la prochaine fois, je vais.
Je crois qu'on en a une copie ici. Je n'ai pas regardé. Il me semble qu'on en a une peut-être dans le bureau. Voilà. Donc maintenant, on va regarder le début de la Genèse. Et puis après on pourra discuter, poser des questions s'il y a besoin. La Genèse. On a parlé lors du premier cours de l'idée de vision du monde. Et l'idée que il y a des éléments un petit peu simples de base qui permettent un petit peu de définir notre vision du monde. Et une manière très simpliste de diviser la réalité dans le monde, c'est de dire soit le monde est un accident cosmique, c'est le hasard complet, soit le monde est la réalisation d'une intelligence qui a quelque chose derrière. Ça permet de diviser un petit peu la vision du monde des gens en deux catégories assez simples. Et notre vision du monde, qui peut être liée à ça et à d'autres choses, c'est ce qui va nous permettre de répondre à des questions comme qui suis-je, d'où est-ce qu'on vient, pourquoi est-ce que je suis là, et pourquoi est-ce que je suis en vie, où est-ce qu'on va après la mort, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort. Et la vision du monde va influer votre réponse à ces questions et a un effet sur ces questions. Et la Bible, elle, répond à la plupart de ces questions et donne son avis et nous encourage à accepter ces questions. Et la Genèse est un livre qui pose énormément des fondements des réponses de la Bible à ces questions. Et ça peut être des réponses, par exemple, quand on pense à des philosophies ou des religions qui existent de par le monde, on voit que la Bible a des éléments qui répondent ou qui contrent, qui ne sont pas d'accord avec ces choses. L'athéisme, ce serait de dire qu'il n'y a pas de Dieu. La Bible, elle dit que Dieu existe, il est là, il existe. Il y a des religions qu'on appelle panthéistes, Dieu est partout dans la création. La Bible dit non, Dieu est distinct de sa création. Il y a la création et il y a Dieu. Il y a le polythéisme, qui a plein de dieux, qui a Dieu, il y a des milliers de dieux. Ça peut être les hindouistes ou les certaines religions, peut-être animistes. La Bible dit il y a un Dieu. Quelque chose qui est peut-être pas forcément une religion, mais le matérialisme. Notre vie s'arrête ici, vaut mieux qu'on en profite maintenant, on va essayer d'amasser le plus de choses possible et en profiter le plus possible. Et la Bible nous dit non, la matière n'est pas une fin en soi, elle a eu un commencement, elle a été créée. L'humanisme, qui serait éventuellement peut-être de dire l'homme est un peu Dieu, est son propre Dieu, c'est pas exactement l'idée humaniste complète, mais la Bible nous dit non, Dieu est la réalité ultime, Dieu a créé l'homme. Des choses par rapport à l'évolution, peut-être, l'homme est le fruit du hasard de cet accident cosmique, et la Bible dit non, Dieu nous a créés. Et la Genèse, le mot veut dire origine ou naissance. Mais le livre nous raconte l'origine des cieux et de la terre, de la lumière, des ténèbres, de toute la création matérielle, même en quelque sorte du temps, de la végétation, des animaux. Elle nous parle des origines du péché, du salut. Elle nous parle du début de la civilisation. Elle nous parle du mariage, on va le voir aujourd'hui, des activités humaines. Elle nous parle de l'univers, de son ordre, de sa complexité, du langage, du gouvernement, de la culture, des nations, de la religion. La Bible aborde vraiment plein de choses. La Bible explique que le monde est dans l'état dans lequel il est, parce que l'homme a rejeté Dieu et parce qu'il a rejeté les vérités qui sont posées dans la Bible et notamment dans la Genèse. Si nous sommes le fruit du hasard et qu'il n'y a aucune vie après la mort et aucune raison vraiment d'exister, alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un bien et un mal? Pourquoi est-ce qu'on se limiterait à certaines choses, pourquoi respecter certains ordres, pourquoi respecter l'autre, etc. Enfin, il y a plein de questions par rapport à ces choses-là. Et dans la Bible, la Bible nous explique que le monde est tombé en quelque sorte à cause du rejet de Dieu et des vérités qu'on peut y trouver. Donc, je vous disais que la Genèse et les quatre livres du début de la Bible ont été écrits par Moïse. Moïse, lui,
c'est
considéré comme acquis, on va dire. Non, non. Il y a d'autres livres dans la Bible où il y a point d'interrogation sur l'écriture qui a écrit au début. Ce qu'on pense, c'est que Moïse a rassemblé un mélange de. Alors, là aussi, c'est des détails que vous pouvez aller voir en ligne, mais un mélange d'écrits. Qui auraient été transmis par exemple sur des tablettes. Moïse notamment avait été éduqué en Égypte, et donc on se dit qu'il avait pu, quand il a commencé à s'intéresser au peuple juif, qu'il aurait à ce moment-là essayé de dire bon, je vais écrire l'histoire de mon peuple, et que Dieu l'aurait inspiré le peuple juif et les rabbins juifs considèrent que la première partie, par exemple, que ce serait quelque chose que Dieu lui aurait communiqué directement, mais que ça aurait aussi été le fruit de la tradition orale de l'époque, qui était beaucoup plus détaillée, beaucoup plus fidèle que ne peut l'être notre transmission orale aujourd'hui. Et on va voir notamment des citations dans le Nouveau Testament, mais il y a vraiment l'idée que Jésus et les apôtres parlent de la Genèse comme étant quelque chose de digne de confiance, et comme ayant été écrit par Moïse. Voilà, donc les dates, c'est, on avait 10500 avant Jésus-Christ. Je vous avais dit que ça avait été, alors suivant les chiffres, c'est toujours difficile de savoir, mais dans le Nouveau Testament, on dit que la Genèse, il y aurait 165 passages différents de la Genèse qui seraient relatés directement ou implicitement dans 200 endroits dans le Nouveau Testament. Donc c'est quand même un texte important, on voit au niveau du Nouveau Testament. Jésus et les apôtres font référence souvent à l'Ancien à la Genèse comme étant le point de départ ou le point de base de leur doctrine. On avait parlé notamment du mariage. Le texte qu'on va regarder aujourd'hui dans le début, là, dans la Genèse 3, dans la Genèse 2, pardon, c'est le texte où Dieu institue le mariage. Jésus y fait référence. C'est intéressant, par exemple, même de voir Jésus dans Jean 5. Jean 5, versets 46 et 47. Alors, on peut commencer au verset 45. Il est en débat avec les scribes et les pharisiens. Il dit « Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Et donc Jésus presque leur dit « Si vous ne croyez pas à Moïse, vous pouvez pas, si vous ne croyez pas les écrits de Moïse. » Et à son époque, l'époque de Jésus, c'était les cinq premiers livres de la Bible que nous avons.
C'est quel passage ?
Ça ?
Oui.
C'est Jean 5, versets 45 à 47. Alors la Genèse peut paraître simple et il y a beaucoup de gens qui se sentent un petit peu insultés par rapport au récit dans la Genèse et dire que c'est pas suffisamment compliqué pour être crédible. Une citation rapporté de Luther qui dit que les histoires qui figurent dans la Genèse sont les mots, les œuvres, les jugements et les actes de la grande majesté, puissance et sagesse de Dieu. Et c'est difficile d'accepter le reste de la Bible si on rejette en partie ou en grande partie les écrits qui sont dans la Genèse. Et donc on va regarder, et c'est aussi pour ça qu'on essaie de prendre un petit peu plus de temps sur la Genèse, parce que c'est quelque chose qui est soumis à beaucoup de critiques de la part de nos contemporains, notamment de la science, qui dit « Non, c'est ridicule, nous on est la science, on est crédible, et on dit que les récits qui y sont des récits mythiques bébêtes, et vous n'avez pas raison de vous y attarder. » Et je vais essayer de vous encourager à ne pas vous laisser faire dans cette discussion-là et à, si c'est quelque chose qui vous pose problème, à chercher des explications. Il y a beaucoup de points très intéressants et où, quand on prend le temps de chercher, on peut être encouragé et se dire qu'en fait, la Genèse n'est pas si farfelue que ça. Le livre, c'est une livre, la Genèse, où on a dit les origines, que ça voulait dire naissance ou origine. Et il y a plusieurs manières dont on peut diviser, regarder le livre. Une chose qui revient, il y a 10 sections qui commencent avec « Voici la postérité de un tel ». Et il y a beaucoup de généalogies, il y a cette idée on regarde les généalogies de certaines personnes et il y a un peu une transmission depuis une personne, la première personne à la suite, et on peut même parler du début de la Genèse comme étant un petit peu la généalogie de la Terre, comment Dieu a créé la Terre, ce qui s'est passé. Ensuite on voit Adam, etc. Et ensuite il y a les patriarches qu'on va regarder dans les cours suivants. Donc ça permet de diviser et de voir la trame de l'histoire et la trame de l'histoire de la rédemption, du plan de Dieu. On voit qu'il y a des lignées souvent avec plusieurs enfants et Dieu va sélectionner un de ses enfants et dire c'est celui-là qui est important et c'est par lui que va venir Jésus. Et c'est cette trame qui est d'une importance non négligeable, cette idée de lignée ou de généalogie. Une autre manière de regarder la Bible, c'est de dire on a le début avant la chute où c'est la génération. Dieu crée la terre et l'homme. Ensuite, il y a la chute avec le péché et ce qu'on pourrait appeler la dégénération. L'homme, la famille, on va voir la semaine prochaine les problèmes, les premiers meurtres entre enfants, les problèmes avec la famille, la société, les nations, avec Babel, etc. Et ensuite, une partie sur la deuxième moitié de la Genèse avec, on pourrait parler de régénération, où Dieu vient et dit, j'ai un plan et je vais au milieu de après la chute de ce chaos, ça ne représente pas ce que je voulais créer, je vais choisir des hommes, des familles et finalement une nation pour accomplir ma promesse de régénération et de salut de l'homme. Et donc je vous disais, il y a plein de doctrines essentielles à la foi chrétienne, des choses très importantes qui commencent ou dont on parle très tôt dans la Bible, dans la Genèse. La souveraineté de Dieu, le salut, la justification par la foi, la mort, la résurrection, Jésus-Christ, le royaume de Dieu, Israël, la promesse du Messie. Il y a vraiment plein de choses qui reviennent. Genèse 1:1. On va regarder la première section, le premier chapitre, avec la création du monde matériel. Donc c'est le tout début. Et comme je vous disais, la Bible.
Je crois que j'arrive pas à me fixer mon attention, je suis crevée.
D'accord, c'est pas un souci.
J'ai une petite heure. Jeudi prochain, j'aurai une journée plus light.
Bon courage, Elodie. Donc on avait dit que la Bible elle commence cache en disant au commencement Dieu. C'est le point de départ. Si on accepte que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, que c'est Dieu qui est à l'origine, ça permet de comprendre pas mal de choses. On a parlé du fait que la Bible dit ce que Dieu a fait est incroyable. Il y a vraiment plein de points sur lesquels on pourrait s'attarder. Mais il y a cette idée que c'est Dieu qui a créé l'univers et que c'est quelque chose d'incroyable. Face à la nature, c'est la réponse souvent, même pour des gens qui ne croient pas en Dieu, même pour des gens qui rejette Dieu, face à la nature, il y a quand même cette notion de beauté, cette chose qui revient quand même quand on est face à un ciel étoilé, face à la Voie lactée, face à la diversité des animaux, un coucher de soleil, les montagnes, la mer, le monde. Il y a quelque chose de beau qui nous touche, qui nous fascine, qui nous parle d'une certaine manière, même si on n'accepte pas la conception de la Bible. Ces premiers versets sont vraiment des versets qui sont, ce que je vous disais, qui sont remis beaucoup en question. Il y a la théorie du Big Bang, il y a la théorie de l'évolution, il y a plein de choses où les scientifiques nous disent non mais... Ce petit récit se passe mal. Alors il y a pas mal d'explications diverses et variées. Il y a même des gens qui essaient d'expliquer ou d'intégrer l'évolution, de dire peut-être qu'on peut faire un mélange et dire qu'en fait c'est pas juste des jours, c'est peut-être des airs. On parle d'airs quand il dit il y a eu un jour. En fait, c'était des millions d'années, et que ce serait Dieu qui aurait utilisé l'évolution. Je veux m'encourager, parce que je suis souvent, quand je relis ce texte au début et que je regarde, j'ai souvent des doutes, et je me dis, mais c'est un peu, oui, effectivement, peut-être que c'est un peu trop simpliste et tout. Et en fait, par exemple, en cherchant pour aujourd'hui, pour préparer ce cours, il y a vraiment plein de choses qui permettent de dire que ce qui est décrit là n'est pas si farfelu que ça et n'est pas quelque chose de trop simpliste, en fait. Et que les théories du Big Bang, de l'évolution et tout ça, sont des choses où il y a plein de trous et où il y a plein de problèmes, en fait, et où ils ont... on en parlait un petit peu la semaine dernière, mais quand on trouve des scientifiques qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont, quand ils sont honnêtes, sont prêts à dire il y a des problèmes et nos théories, on pense qu'on devrait trouver certaines choses, certaines preuves, et on ne les trouve pas, et donc nos théories, il y a des problèmes. Et donc on voit les premiers jours, là, le premier chapitre, on voit Dieu créer le ciel et la terre au verset 1. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de l'eau planait au-dessus de l'eau. L'esprit de Dieu, pardon, planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un jour et un matin, ce fut le premier jour. Dieu crée la lumière et les ténèbres. Deuxième jour, il crée une atmosphère, il sépare. On voit Dieu donc au verset 6 qui dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Là, il y a des théories intéressantes. Quand on va lire les premiers chapitres avec les patriarches, la Bible nous dit que ces personnes-là vivaient très longtemps. Jusqu'à 900 ans, des choses qui nous semblent complètement, là aussi, ridicules. On se dit, ça, c'est scandaleux même. Et ici, en fait, dans les détails, on voit qu'il sépare deux étendues d'eau. On se dit, entre les étendues, il y a une atmosphère, et les gens disent, mais c'est bizarre. Et en fait, il y a des théories, il y a des scientifiques qui sont penchés sur cette question, et qui ont dit, éventuellement, en fait... scientifiquement parlant, peut-être qu'il y avait dans l'atmosphère autour de la Terre une sorte de couverture d'eau. Et les scientifiques, croyant le plus souvent, pensent que c'est quelque chose de crédible, qu'il y aurait eu une sorte de couverture d'eau autour de la Terre. Et donc l'homme aurait été entre deux couches, quoi. Au-dessus du ciel, dans l'atmosphère, il y aurait une couche d'eau. Et cette couche d'eau aurait permis plusieurs choses qui permettraient d'expliquer... Non, pas l'arche de Noé, le déluge, en disant peut-être que le déluge c'était simplement cette eau qui serait tombée entre guillemets du ciel et aurait couvert la terre, mais que si l'homme avait été, cette couverture d'eau aurait permis à ce que la terre soit un petit peu comme une grande serre, et donc il y aurait eu une température plus uniforme sur toute la terre, qu'il y aurait eu une plus grande concentration d'oxygène dans l'atmosphère. On voit qu'en fait, quand l'homme est soumis à une concentration plus élevée d'oxygène, il peut avoir de meilleures performances physiques, il peut récupérer plus rapidement. On voit que les plantes, si on fait grandir des plantes dans un taux d'oxygène plus élevé que ce que nous avons actuellement, ils grandissent de manière assez incroyable. Et que l'homme aurait aussi été protégé des rayons UV, par exemple, cosmiques, dont on sait qu'ils posent problème pour le vieillissement, pour la peau, que ça affecte notre corps. On sait que scientifiquement, on sait que les rayons du soleil sont une partie des choses qui nous font vieillir et un petit peu détruisent entre guillemets notre corps, et ça aurait peut-être permis à ce que l'homme vive plus longtemps. Donc c'est des choses, je vous en parle parce qu'on va voir les patriarches et les gens qui vivaient très longtemps. C'est des questions, encore une fois, là on peut trouver des gens qui écrivent des livres complets dessus et qui passent beaucoup de temps dessus, avec des choses pas ridicules. Donc c'était le deuxième jour. Le troisième jour, on voit qu'il crée la terre ferme, la mer, les plantes et toute la végétation. Le quatrième jour, il crée le soleil, la lune et les étoiles. On se dit, mais il y avait la végétation avant, comment ça se passe? Alors après, il y avait la lumière, mais il n'y avait pas de soleil. Alors est-ce qu'il a créé la lumière en tant que concept? C'est des choses qui sont difficiles à comprendre, mais quand on voit les gens qui rejettent Dieu, et par exemple qui prennent l'idée de Big Bang, ils n'ont pas vraiment d'explication non plus, c'est-à-dire qu'ils disent, bon ben, il n'y avait rien, puis il y a eu une explosion, et puis il y a tout. Et donc, finalement, c'est un peu le même genre de supposition, c'est-à-dire qu'on est obligé de se dire, ben, il y a un élément dans le monde où c'est difficile pour nous, on ne peut pas accéder, on ne peut pas retourner suffisamment en arrière, donc on ne sait pas, on n'explique pas, on ne sait pas trop. Si ça vous intéresse et si ça vous tient à cœur, par exemple, vous pouvez lire simplement des articles Wikipédia sur la création du monde, le Big Bang. Et en fait, vous pouvez voir que les scientifiques, ils balancent des théories. C'est un petit peu la fête, quoi. C'est ah oui, alors peut-être que vraiment, c'est de l'ordre du c'est vraiment du farfelu. Hein. C'est je pense qu'il y avait peut-être j'en sais rien. Enfin, c'est vraiment c'est. Les théories sont tellement marrantes qu'on en sourit, en fait, et les scientifiques sont limités là-dedans. L'homme est limité, notre compréhension du monde est limitée. Là, c'est intéressant aussi, quand il crée donc, le quatrième jour, la lune et les étoiles, le texte dit que c'est la lune, les étoiles, le soleil vont être utilisés comme des signes pour les époques, les jours et les années. Et c'est ce qu'on sait, que nos jours, nos époques, nos années sont basées par rapport aux astres. Et il y a un point qui est très intéressant aussi. Là aussi, il y a des gens qui se penchent dessus et qui ont écrit des livres avec des hypothèses par rapport à ça. C'est les signes du zodiaque. Et en fait, il y a une question qui est assez incroyable, c'est qu'ils trouvent que les signes du zodiaque sont les mêmes dans toutes les cultures. Vous allez dans toutes les cultures et il y a des choses où les mêmes signes sont présents et avec les mêmes symboles. Et pourtant, quand vous regardez les étoiles et qu'ils vous disent bon bah ça c'est la grande ours, ça c'est la ceinture de etc. Ils vous décrivent ce qu'il y a dans les étoiles. Ben c'est un petit peu du ouais d'accord il y en a trois et peut-être vaguement quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu les dessins. Il y a des étoiles vaguement au milieu et on fait un joli dessin autour en disant ça c'est un crabe, ça c'est des gémeaux. Et pourtant, en fait, on trouve ces symboles dans plein de cultures et donc on pense qu'éventuellement, ces signes auraient en fait été des choses que Dieu aurait peut-être communiqué à l'homme avant, très tôt dans l'histoire de l'homme, en voulant communiquer un message à l'homme par rapport à son plan pour la rédemption. Donc il y a des gens qui vont voir dans ces signes du zodiaque l'histoire et l'histoire de la rédemption et qu'il y aurait peut-être, ça permettrait d'expliquer pourquoi c'est la même chose dans toutes les cultures. Parce que bon, on se dit que si les gens en Amérique du Sud et en Chine ont réussi complètement séparément à trouver les mêmes signes, peut-être qu'il y avait quelque chose, une trame similaire derrière. Le cinquième jour, les oiseaux et les créatures de la mer. Le sixième jour, il crée les animaux terrestres et il crée l'homme. Au verset 26, et on va se pencher un petit peu plus en détail là-dessus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que toute arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. Et cela se passa ainsi, etc. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Dieu crée l'homme à son image. Il a une personnalité, une moralité, une spiritualité. Et le fait que Dieu ait créé l'homme à son image fait que la Bible explique clairement que la vie humaine a une valeur intrinsèque. La Bible aussi, dans ce texte, on voit que l'homme, l'être humain, est séparé dans sa création des animaux. Et ça permet d'expliquer les différences qu'on voit entre l'homme et les animaux. Il y a une question qui pose des problèmes aux gens qui ne veulent pas croire en Dieu, c'est la question de la moralité. Si on a évolué en tant qu'animaux, qu'on était des singes et qu'on est devenus des hommes, pourquoi est-ce qu'à un moment dans l'histoire, il y a eu une moralité qui s'est imposée? Pourquoi est-ce que dans toutes les cultures, la notion d'inceste est mauvaise? Pourquoi est-ce que la sexualité, pourquoi est-ce que l'homme sans l'obligation de se couvrir, par exemple, les parties de reproduction génitale, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence avec les animaux? Et ils n'ont pas vraiment d'explication plausible. Là aussi, c'est un petit peu la foire aux idées, aux hypothèses gratuites. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a créés, séparés et distincts des animaux avec des choses différentes. Dieu leur dit à l'homme et à la femme, reproduisez-vous. On voit aussi que l'expérience sexuelle qu'ont les êtres humains est différente de celle des animaux, mais pas purement pour une notion reproductive. Il y a un plaisir, il y a des éléments, on peut se pencher là-dessus, voir la distinction. On voit aussi qu'il donne une mission à l'homme. Il lui dit de cultiver, de garder le jardin. Certaines personnes, même croyantes, disent que l'homme a été créé pour être tranquille dans le jardin d'Éden, à siroter des jus de coco et à rien faire, et que le travail, c'est en fait le fruit de la chute et du péché, et que le travail, c'est un petit peu la condamnation de Dieu. Et en fait, on voit que Dieu avait donné des tâches à l'homme, et que l'homme a besoin de travail, en quelque sorte. Il peut s'épanouir dans le travail, et l'homme n'a pas été créé pour l'oisiveté pure et dure. On va voir après avec la chute qu'il y a la notion de travail difficile et qu'il y a une nuance qui est venue se rajouter au travail qui est dur, qui est pénible, mais le travail en lui-même n'est pas le fruit du péché. Et au final, il y a le septième jour, Dieu se repose. Et Dieu se repose pas parce qu'il en a besoin, mais c'est pour donner un exemple. Et c'est l'origine de notre semaine de sept jours, du fait qu'on a besoin d'avoir des alternances entre le travail et le repos, et que c'est une bonne chose pour nous physiquement. Psychologiquement, on a besoin de repos. Et on voit plus tard, alors dans le chapitre 2, qu'il donne un commandement avec un arbre du bien et du mal, où il dit attention, il y a cet arbre, il ne faut pas que vous en mangiez. On en a parlé la semaine dernière, on me posait la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a mis cette arme s'il y avait la possibilité que tout ce qui s'en est suivi s'en suive? Et c'est simplement l'idée de choix. Dieu voulait un rapport avec l'homme qui était basé sur un choix de l'homme. Et si Dieu ne donnait pas en quelque sorte une alternative, un choix à l'homme, c'était un peu comme des robots, quoi. On le sait dans l'amour humain qu'on veut que la personne nous choisisse. On veut pas simplement un robot ou un mannequin qui n'a pas le choix. On veut quelque chose de dynamique où il y a un choix. Et donc, Dieu met ce choix comme possibilité pour que l'homme ne soit pas en quelque sorte n'est pas de liberté, de volonté, mais qu'il ait cette possibilité de choisir. Une remarque, c'est Dieu a créé l'homme d'un âge mature. On rigole des fois et on parle de la question, est-ce que la poule est arrivée avant l'œuf ou est-ce que l'œuf est arrivé avant la poule? En fait, on rigole, on sourit avec cette question-là, mais en fait, là, on se dit que qu'Adam, il n'était pas tout bébé, là, il était quelqu'un d'adulte. Quand il y a Ève qui arrive, ils étaient tous les deux adultes, ils pouvaient... c'est simplement l'idée que Dieu a créé l'homme et la femme et la création avec une notion d'âge déjà créé. C'est-à-dire que la Bible ne dit pas « il a créé la terre » jour zéro, il n'y avait aucune trace d'âge. Parce que souvent, une des choses dont nous parlent, par exemple, les scientifiques, c'est dire « Ah, mais quand on regarde, c'est absolument pas possible que la Terre n'ait que 6000 ans parce que, j'en sais rien, quand on date quelque chose, on se dit que ça doit avoir des centaines de millions d'années, j'en sais rien. » Mais l'idée que Dieu n'ait pas pu créer le monde avec un âge déjà intégré dedans, il y avait des arbres. Quand il créait les arbres avaient des cernes. S'il y avait un arbre mature, il avait des cernes déjà dedans. Donc il y avait déjà une notion d'âge. L'homme avait déjà un âge. Et donc il y avait déjà l'idée qu'un âge était introduit. Bref, c'est une idée qui permet de ces indications d'âge. Dieu a créé la poule avant l'œuf. Vous pouvez vous en rappeler, mais... C'est intéressant. On voit que Dieu crée l'homme seul au début et qu'à un moment il dit c'est pas une bonne chose. Il a besoin de pas être seul et donc il crée la femme à partir de l'homme pour qu'elle soit une aide, un vis-à-vis. Et il va instituer le mariage. C'est au chapitre 2. C'est au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. C'est ce verset qui est utilisé comme référence au mariage quand Jésus en parle dans le Nouveau Testament et quand Paul en parle aussi. Là aussi, on peut. C'est un texte que les gens qui n'acceptent pas Dieu n'aiment pas, et notamment actuellement avec le mariage pour tous et toutes ces choses-là, c'est des textes qui sont difficiles à accepter pour nos contemporains, notamment avec l'idée d'égalité homme-femme, le féminisme qui a du mal ou qui n'aime pas la manière dont la Bible présente l'homme et la femme. Ce texte ne veut pas dire que la femme est inférieure. Il parle du fait que Dieu crée la femme comme étant une aide ou un vis-à-vis. Mais à ce niveau-là, c'est que c'est un égal, quoi. C'est un égal qui est différent et qui a son rôle. Et l'homme, dans le couple, dans le mariage, Dieu veut que l'homme ait l'autorité. Mais pas une autorité pour abuser, mais une autorité pour servir. Il y a des gens qui disent oui, d'accord, mais ça veut dire que la femme est inférieure à l'homme, elle n'a pas l'autorité, etc. Et en fait, quand on regarde souvent, par exemple, ce que dit Jésus dans les évangiles, lui, il dit que celui qui sert est supérieur à celui qui est servi. La vision de Dieu du monde est renversée. Donc, il n'y a pas de notion de l'un qui est inférieur à l'autre. C'est encore des textes sur lesquels on peut s'attarder beaucoup et passer beaucoup de temps dessus. Bref, la Genèse 3, après tout ça, nous parle de la chute. Donc c'est le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Ça cause la séparation d'avec Dieu et ça enclenche tout un processus de problématique pour l'homme qui nous amène où on en est aujourd'hui. Et on voit que Ève rencontre le serpent qui est... La Bible nous parle plus tard et nous explique que c'est Satan, le diable. Adam avait reçu un commandement clair de la part de Dieu. Et on se dit qu'en fait, peut-être qu'Adam ne l'avait pas correctement communiqué à Ève. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de cet arbre. Ève, on voit que lors de son entretien avec le serpent, par exemple, elle dit, il ne faut pas le toucher. Donc on voit que Adam, déjà dans son rôle d'autorité dans le couple, avait déjà peut-être pas correctement joué son rôle et avait pas bien expliqué les choses, ou avait dit, ah oui, au fait, cet arbre, le touche pas. Si on le touche pas, on n'en mange pas, mais c'est pas vraiment forcément très fidèle. Et Satan, comme souvent dans le reste de la Bible, commence par se servir d'une connaissance incomplète d'Ève. On voit qu'elle est pas sûre à 100%, elle sait que c'est un problème avec cet arbre, et il va un petit peu introduire le doute et ensuite l'attaquer ouvertement et dire un mensonge qui est le mensonge qui nous présente souvent et le mensonge qui est caricaturalement, on pourrait le décrire comme ça, le péché, en fait, c'est bon et Dieu est mauvais et méchant et veut pas qu'on en profite, quoi. Il dit, ah, Dieu, il veut pas que vous mangiez de ça parce que vous serez comme des dieux, etc. En fait, y a pas, vous mourrez pas, c'est pas vrai, c'est bien. Et il tord toujours une partie de la vérité dans son mensonge aussi. Il mélange un petit peu un mensonge avec une vérité. C'est intéressant aussi, il leur dit, vous serez comme des dieux si vous en mangez. Et en fait, c'est ce qui a causé la chute de Satan, c'est qu'il voulait être comme Dieu, il voulait être égal à Dieu. Et c'est une motivation dans de nombreuses religions du monde, c'est cette idée qu'on peut être un Dieu, en quelque sorte. Adam et Ève. Donc Ève prend la pomme, et on voit qu'elle en donne à Adam, qui lui dit rien et prend aussi. Et tout d'un coup, ils deviennent conscients de leur péché, de leur état. Ils s'enfuient, ils se cachent, ils se couvrent, et Dieu vient les trouver comme il le faisait. Il avait une présence normale avec eux dans le jardin d'Éden, et il vient les chercher. Il dit où vous êtes, et là ils viennent un petit peu et on voit leur manière, leur interaction qui est assez révélatrice à pas mal de niveaux. Mais Dieu s'adresse à Adam et dit, qu'est-ce que vous avez fait? Et Adam il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger. C'est vraiment l'acheter personnifié. Donc on voit que Dieu, il s'adresse d'abord à l'homme et ensuite il demande à la femme. Mais donc ils sont pas, Adam a péché, Ève a péché, ils sont tous les deux fautifs, ils ont tous les deux leurs responsabilités engagées. Il y a une égalité à ce niveau-là. Dieu va condamner le serpent. Il y a un passage qui est très intéressant, juste pour clore. Au chapitre 3, au verset 15, il dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et en fait, on peut voir dans ce petit verset, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon, comme étant une annonce de Jésus, en fait. Et les théologiens parlent du proto-évangile, la première annonce de l'évangile et de la bonne nouvelle de Jésus. Et on voit que Jésus va être blessé au talon, en quelque sorte, avec la mort à la croix, mais qu'à la fin, c'est Jésus qui va vaincre le serpent en lui écrasant la tête. Dieu donne ensuite la condamnation par rapport à la souffrance dans la grossesse, dans la douleur, etc., sur la femme, et à l'homme par rapport à la douleur et au fait qu'il va devoir travailler difficilement pour avoir sa nourriture. Ces choses-là, et ensuite on voit la fin, en fait, du jardin d'Éden. Et l'arbre de vie, alors il y a des choses sur lesquelles on pourrait s'attarder dans tout ça. Mais on voit qu'il y a quand même une grâce. Dieu les couvre avec des peaux. C'est un petit peu à l'image de ce que le Nouveau Testament annonce quand il dit que pour être justifié, Dieu nous habille en quelque sorte de Jésus. on revêt Jésus en quelque sorte, et ça couvre, ça nous couvre, ça couvre nos, notre honte et nos péchés vis-à-vis de Dieu. Et on peut se dire, même avec ces petites choses, que Dieu leur fait une promesse, qu'il va avoir une sortie, et que le fait qu'ils soient couverts, c'est presque comme s'ils sont, ils sont sauvés. Ma conviction, c'est qu'on verra Adam et Ève au ciel, malgré tout. Et on verra un petit peu la suite de l'histoire après, avec leurs enfants, au chapitre 4.